Mais comme je dois faire une autre réunion à 20h30 sur l'éducation, Christine, tu peux venir là, la place. J'ai fixé cette réunion à 18h. Bon, il ne vous a pas échappé que je suis candidat à une élection, l'élection municipale, qui aura lieu, je crois, dans 60 jours maintenant, assez rapidement. Alors pourquoi parler de l'université dans une élection municipale? Ce n'est pas de la compétence directe d'une ville, et donc ce n'était pas forcément une obligation. Mais moi je pense que pour Poitiers, l'université et la recherche sont deux secteurs qui n'en font qu'un, mais qui sont essentiels. Et j'ai souhaité, dans les réunions thématiques que j'organise maintenant depuis plusieurs semaines, traiter avec vous ce sujet. Je vais en dire quelques mots. Et puis, ce que je souhaite, c'est le but de ces réunions, c'est de vous écouter et d'échanger. Il n'est pas question ici que je vous assène des vérités que vous connaissez par ailleurs. Simplement vous dire quelques 3-4 choses au niveau national par rapport à toutes ces réformes qui se sont succédées et 3-4 choses qui concernent le niveau local. Concernant le niveau national, j'ai eu l'occasion de vous dire mes prises de position et ayant quelques responsabilités dans ce domaine-là au Parlement, notre paysage est en train de se modifier profondément avec des interrogations qui restent et qui sont devant nous, que ce soit dans le domaine de la recherche ou que ce soit dans le domaine des universités et de l'enseignement supérieur de façon plus large. Deux lois ont été votées, une loi par le précédent gouvernement et le ministre de la recherche qui concernait essentiellement la recherche et la loi, alors, je ne prendrai pas le nom officiel, vous m'excuserez, moi que j'appelle sur la gouvernance des universités. C'est plus parlant. La loi, autrement, telle qu'elle est, c'est les libertés. Voilà, responsabilité universitaire. En quoi ça modifie les choses et en quoi ça ne règle pas tous les problèmes? Concernant la recherche, jusqu'à présent, nous avions des organismes de recherche qui organisaient dans notre pays la recherche et qui en organisaient aussi l'évaluation. Sur le terrain, 80% des laboratoires de recherche étaient des laboratoires de recherche sur les universités. C'est la situation que nous connaissons également à Poitiers. Le gouvernement de l'époque et le législateur, après un mouvement très fort des chercheurs sauvant la recherche, a décidé, au-delà des moyens financiers, on pourra y revenir tout à l'heure, je ne les oublie pas, je ne pense qu'à eux, mais on va essayer de voir avant les structures, le législateur a décidé de modifier un peu ce cadre, et c'est bien français. On a créé un certain nombre de choses sans rien supprimer et sans rien éclairer. C'est-à-dire qu'on a créé l'Agence nationale pour la recherche, l'ANR. On a créé l'Agence nationale d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, dont les décrets d'application sont parus en juillet dernier, août dernier. Et dans le même temps, il y avait l'agence technologique qui était créée et il y avait des pôles de compétitivité qui étaient créés. Bon. Et les organismes de recherche restaient en l'état. Aujourd'hui, où nous en sommes, l'Agence nationale pour la recherche fonctionne dans de bonnes conditions, a de l'argent, reste à être vigilant sur le préciput et sur le fait que la recherche, les travaux ce qu'on appelle la recherche blanche, c'est-à-dire les travaux de recherche fondamentale, puissent garder le même pourcentage, dans les 25 ou 30%. Mais reste beaucoup de questions. Et les questions, on les voit bien surgir. Je rencontrais récemment le directeur général du CNRS. Je discutais avec l'ancien président qui est parti malheureusement de l'INSERM, Bréchot. Pour ne parler que d'eux, il y a à régler un jour ou l'autre la place de ces organismes de recherche. Il y a un malaise encore aujourd'hui fort au CNRS. Et je crois qu'il faut qu'on l'ait en tête, nous aussi, le temps de la recherche est différent. Il n'y a pas que de la recherche sur projet. Les organismes de recherche ont en responsabilité des recherches sur des temps très longs. Et je crois qu'il faut qu'on ait ça en tête aujourd'hui, y compris à Poitiers. Il ne faudrait pas que l'Agence nationale pour la recherche assèche tout autre crédit. Hein ? Parce que là, nous serons confrontés à des difficultés majeures pour notre pays. Et donc, moi, c'était les réticences que j'avais dit à l'époque, et l'ancien ministre, moi, je dois revoir régulièrement, qui est quelqu'un qui a une réflexion, je lui dis, écoute, tu n'as pas été jusqu'au bout de la logique. Il faut maintenant réfléchir sur les organismes de recherche et la place par rapport aux universités. Je crois que c'est un sujet fondamental. Je ne parle pas d'un sujet qui est encore loin de nos préoccupations, ou pas suffisamment de nos préoccupations, le transfert et l'innovation. Et je ne parle pas aussi, pour le moment, de la politique ou des politiques régionales qui sont mises en place. Cette loi a introduit une chose, et là je fais un aparté, bonne, que j'ai soutenue, mais qui était issue du mouvement Sauvons la recherche et des universitaires, les presses. Je suis favorable aux presses. Sous réserve que les conseils d'administration ne soient pas court-circuités et que les structures créées pour les presses fonctionnent dans de bonnes conditions. Pour être plus précis, je suis favorable dans ce département et à Poitiers de la logique qui a été entreprise pour faire un presse. C'est une stratégie d'alliance que Poitiers doit avoir en matière universitaire, en matière de CHU, en matière dans beaucoup de domaines. Poitiers a une petite taille, elle doit mener dans ces domaines essentiels des politiques d'alliance. Et je crois que le presse qui est initié aujourd'hui, je souhaite qu'il aboutisse entre La Rochelle, Tours et Limoges, est une bonne chose. J'ai un regret qu'il n'aille pas. Et l'ANSMA, j'allais oublier les écoles, et l'ANSMA, j'ai un regret qu'il n'aille pas taquiner Tours et Orléans, mais Tours et Orléans sont peut-être dans des logiques différentes. Est-ce qu'un jour ils parleront entre eux de fusion ? Donc c'est un sujet sur lequel il faut avancer. Mais vous aurez tout mon soutien en tant que parlementaire et dans d'autres fonctions, je souhaite, demain, sur cette politique d'alliance que l'université doit mener. C'est la seule condition pour une université généraliste comme Poitiers de se mettre en réseau sur un certain nombre de thèmes et de défendre un certain nombre de pôles d'excellence. Je tiens le même raisonnement, et je disais l'autre jour avec les responsables de santé que j'avais réunis et en présence du directeur du CHU, je tiens le même raisonnement vis-à-vis du CHU. Il faut qu'au niveau du CHU, il y ait des alliances publiques sur le territoire. Ça, c'est la première loi. Mais on ne coupera pas à la clarification avec les organismes de recherche, parce qu'on va créer durablement un malaise, en particulier au CNRS. Et actuellement, si le conseil d'administration du CNRS, et si il y a des difficultés, c'est que pour le moment, la position du gouvernement, le moins qu'on puisse dire, n'est pas claire sur ce sujet. Et contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas forcément une bonne chose pour les universités. Car l'un n'ira pas sans l'autre. Moi, je pense que c'est profondément ma position. Alors, sur l'autre loi, que j'appelle la gouvernance, j'ai voté contre. Et je m'en suis expliqué. Donc, je n'ai pas changé d'avis maintenant. Et je ne le regrette pas. Je m'étais compte, bizarrement, j'avais fait un rapport avec un parlementaire UMP un an avant, où 80% de mes propositions ont été reprises par la ministre. Alors pourquoi j'ai voté contre ? Est-ce que je me suis déjugé ? Est-ce que j'ai changé de pied ? Non. J'ai toujours dit qu'il fallait une autre gouvernance au niveau des universités, je vais y revenir. Je considérais que cette nouvelle gouvernance devait être l'aboutissement de quelque chose et qu'il fallait traiter préalablement les maux qui existaient au sein de l'université. Et les maux qui existent au sein de l'université, vous les connaissez mieux que quiconque, c'est l'échec en premier cycle, c'est la réforme de la licence, c'est la place des doctorants et des post-doctorants, c'est les rapports entre université et organismes de recherche, autant de sujets que la loi n'a pas traité en juillet dernier, sans parler de la précarité des étudiants, qui n'est pas une invention du député Claes, mais qui avait fait l'objet d'un rapport éminent, documenté, qui avait été rédigé à l'époque par l'actuel porte-parole du gouvernement. Et j'avais dit à Mme Pécresse, et je lui ai redit pendant le conflit qu'il y a eu quelques semaines lors d'un débat à la télévision, je lui ai dit qu'elle était rattrapée par ces sujets-là. Ces sujets sont des sujets prégnants par rapport à nos universités, et c'est des sujets, tant qu'ils ne seront pas traités, ne contribueront pas à rendre plus lisible notre système d'université et de recherche au niveau international. Ceci étant, sur la gouvernance, en un mot. Pourquoi sur les éléments de gouvernance, certains éléments de gouvernance, je suis favorable ? Pour une raison simple, je pense que la notion d'université en France est une notion neuve, récente encore, que la logique facultaire reste forte, et que je crois qu'aujourd'hui, c'est de la responsabilité des élus de renforcer le pouvoir universitaire. Le renforcer, pour moi, ça a un certain nombre de conséquences. Si on renforce les équipes présidentielles, ça veut dire deux conséquences. Plus de démocratie dans les conseils, plus de démocratie dans les conseils. Et deuxième chose, ça suppose l'évaluation. Je pense que l'évaluation est un mot clé pour nous. Et encore, avec un principe, je ne vais pas le redire entre nous, évaluation par les pairs. Ça va mieux en le disant, mais il faut le répéter, continuellement. Alors, les inquiétudes que j'ai sur la loi et qui demeurent, c'est les chantiers qui sont ouverts mais qui n'ont pas abouti. J'espère que ça va aboutir. La précarité étudiante, un pays comme le nôtre ne peut pas laisser faire ça. Je vous assure que la situation, et vous le savez bien, pour certains étudiants, devient de plus en plus catastrophique. Et puis, ce qui reste aussi à faire, c'est l'inquiétude, qui n'a pas fait l'objet de grands débats, mais sous l'ouverture possible à des postes contractuels non statutaires dans l'université. Alors, je comprends l'intérêt lorsque c'est pour faciliter, faire venir des professeurs étrangers ou des intervenants étrangers, mais je ne veux pas que ça devienne une politique qui se substitue à une politique d'emploi statutaire. Et quand on relit attentivement la lettre de M. Sarkozy de mission adressée à Mme Pécresse, et qu'on la lit dans le détail, pas de création d'emploi, il faut supprimer un certain nombre d'emplois sur deux, j'entends bien, au sein de l'université. Ça veut dire qu'il faudra m'expliquer comment on renforce en premier cycle l'encadrement, alors que les taux d'encadrement en université, je ne parle pas d'IUT ni des classes préparatoires, est faible et représente véritablement un problème aujourd'hui dans notre pays. D'autre part, au niveau de la recherche, au niveau des fonds, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Je crois que là aussi, il faut faire très attention. Et puis, il y a une ambiguïté. Et l'ambiguïté, celui qui l'a soulevée, c'est pas un socialiste. C'est François Bayrou qui l'a soulevé. Il est intervenu 4 minutes à l'Assemblée nationale, mais fortement. Et moi, je lui ai dit qu'il avait été intervenu utilement. On n'a que ce mot d'autonomie à la bouche. Mais on n'aura jamais en France une autonomie à l'anglo-saxonne. Ce n'est pas notre système universitaire. Notre système universitaire, la loi le dit, c'est l'État qui en est responsable. Et l'absent de la loi qui a été votée en juillet, c'est l'État. On organise l'université, on ne dit rien sur les organismes de recherche, et on ne dit pratiquement rien de l'État. Je crois qu'il y a des choses à dire sur l'État aujourd'hui, au-delà des moyens financiers. Il y a méthode d'évaluation. On va négocier ici, dans l'université, le plan quinquennal, bientôt. Quadriennal, pardon, pas quinquennal, quadriennal. On va le négocier maintenant. Voir comment se font les évaluations, les retards qu'il y a. Je crois que l'État aussi a un certain nombre de responsabilités à prendre. Donc, voilà, rappeler à grands traits ma vision aujourd'hui sur l'université. Je ne suis pas pessimiste, mais je crois que c'est une belle occasion manquée. Il se trouve que j'ai travaillé sur ce sujet à 6 ans d'intervalle. Je pense qu'aujourd'hui, les esprits étaient mûrs pour qu'on fasse une belle loi. Je crois qu'on a mis le toit avant de faire des fondations. Je souhaite que ceux qui s'engagent, et je comprends l'université de Poitiers qui peut s'engager maintenant en utilisant les leviers de la loi, et je leur souhaite bonne chance, et il faut le faire, il ne faut pas rester en état. Mais attention, soyons vigilants que les équipes universitaires ne se trouvent pas demain nues face à l'État, c'est-à-dire ayant des responsabilités, mais ne gérant qu'une certaine pénurie et un certain nombre de difficultés. Alors, j'ai entendu aussi pendant le débat, et j'ai reçu tous les juristes que la Terre compte, que la France compte, la réticence de certains qui avaient une logique facultaire. Alors, moi, je vous parle très franchement là aussi. J'ai fait des critiques à cette loi, je l'ai exprimé, j'ai fait des propositions, mais je ne suis pas dans une logique facultaire. Je pense même qu'il faut avancer. Je parle devant des scientifiques ici. Je pense que tout ce qui a été créé à travers le LMD, on doit en tirer un certain nombre d'enseignements. La transversalité, ça existe de plus en plus au niveau de la recherche. Et je crois qu'il va falloir qu'on en tire un certain nombre d'enseignements, y compris dans notre organisation et dans notre recrutement. Je pense aussi aux disciplines qui ne sont pas des sciences dures. C'est un sujet majeur. Il ne faudrait pas faire des lois en mettant de côté demain toutes ces sciences qui vont nous être utiles au niveau recherche par rapport aux problématiques que notre société va avoir à régler dans les années qui viennent. Alors, vous allez me dire, parler de ça pendant une campagne électorale, ça ne fait pas gagner des voix. Peut-être, mais c'est des sujets, je vous assure, importants. Hein ? Toutes ces recherches actuellement ne doivent pas devenir les parents pauvres du CNRS et d'un certain nombre d'organismes. Voilà, si vous voulez, au niveau national, mais je crois que c'était pour vous rappeler les choses, disons, ma position, elle reste les mêmes. Et je voulais vous les rappeler parce que ça sera utile pour Poitiers. Venons-en à Poitiers, quelques mots et après j'arrêterai. Moi je souhaite, et je l'ai dit, que l'équipe que j'ai le plaisir de conduire, si nous sommes élus, mette l'université et la recherche au cœur de ses préoccupations. Pourquoi je dis ça? Non pas parce que vous êtes là, parce que plus je réfléchis sur Poitiers, plus je regarde son histoire, les hommes, on se rend bien compte que, quelque part, c'est le moteur, aujourd'hui, dans cette ville, dans ce département, dans cette région, c'est un moteur qui peut être utile, bien entendu, sur la connaissance, sur la recherche, sur la formation des hommes, mais peut être aussi, avec les difficultés que ça comporte, un élément de création de richesse. Je crois qu'il faut qu'on ose affirmer aujourd'hui que l'université peut être un élément de création de richesse. Et que ces laboratoires, c'est tout le débat qu'on doit avoir sur les transferts, peuvent être une création de richesse. Alors, c'est le concours à la meilleure collectivité qui met de l'argent. Alors, quand on entend le Conseil général, c'est pas notre compétence, on met beaucoup d'argent. Ben, très bien, il faut qu'ils en mettent plus. La ville, la CAP, met de l'argent moins, ben, le budget est moindre. La région fait très bien son job. Tout ça, c'est bien. Mais moi, j'ai une position, et je me battrai avec les universitaires là-dessus, ce ne sont pas aux collectivités locales de déterminer les orientations de recherche au niveau de l'université de Poitiers. Et je crois qu'il y a une erreur qui a été commise. Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre, a eu l'opportunité de nous proposer un pôle de compétitivité à Poitiers. On n'avait pas le refusé. C'était une opportunité qui était intéressante. Mais l'erreur, et je lui ai dit, donc je peux vous le dire publiquement, l'erreur, c'est qu'il, dans son coin, il a proposé un thème qui ne correspondait pas, on le sait bien, aux priorités de recherche définies par vos instances au sein de l'université. Un pôle de compétitivité, c'est quoi? C'est mettre sur un territoire donné en rapport des laboratoires de recherche et des entreprises qui ont des centres de recherche concernant le thème. On a, sur le thème choisi, ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il aurait été plus utile qu'on réfléchisse ensemble, qu'un thème soit déterminé avec les universitaires, et je suis convaincu que ça aurait été plus efficace. Parce qu'à quoi va servir l'argent public, là? À part quelques recherches qui peut-être profiteront à certains laboratoires. Vous me direz si vous avez le droit de m'interrompre si je me trompe. Ça va servir à payer à grands frais un centre d'essai où les entreprises vont y aller sans que ça leur coûte grand-chose. Ça va poser deux problèmes à terme. C'est-à-dire qu'on a dépensé de l'argent public et beaucoup d'argent public là-dessus. Et deuxièmement, un jour, la Commission européenne va se réveiller en disant discordance de concurrence, faussement de concurrence. Il y a intérêt à prendre toutes les précautions. Hein, c'est couru d'avance parce que l'argent qui va être mis dans l'équipement, sur les essais, va profiter à tel groupe que vous avez en tête ou tel autre, mais ça se passera de cette façon-là. Donc je pense que c'est une occasion manquée. Mais oublions cette occasion manquée, on verra comment ça évolue. Mais sachez quand même, ne soyez pas surpris, le gouvernement a décidé une évaluation des pôles de compétitivité. L'évaluation est en route. Moi, je m'occupe, au niveau du Parlement et de la Commission des Finances, d'évaluer un certain nombre de pôles de compétitivité à partir de la Commission des Finances. Pourquoi? Parce que c'est l'utilisation de l'argent public. Au niveau de l'utilisation de l'argent public, je crois qu'il va falloir, sur des thématiques données, mettre en réseau ces thématiques. C'est à ce moment-là où on ne trouve jamais le téléphone. On va le laisser sonner. Mettre en réseau ces thématiques et essayer d'utiliser l'argent public au mieux, optimiser l'argent public. Et donc, on a intérêt à s'y préparer, parce que l'argent ne va pas couler à flot, vous doutez bien, dans les années qui viennent. Donc voilà sur le pôle de compétitivité. Je ne vais pas revenir sur les initiatives que la ville de Poitiers, avec Jacques Centraux et toutes ses équipes, ont prises sur les universités. Ça va dans le bon sens. Moi, je les reprends à mon compte. Il faudra les approfondir. Mais je crois que tout ça, c'est important. J'insiste sur un point qui concerne peut-être pas tous ici, mais l'accueil des étudiants étrangers est un élément important. Il y a la structure d'hébergement qui fonctionne maintenant. Il y a un certain nombre de choses, mais je recevais l'autre jour des responsables de l'école de commerce. Vous savez que l'école de commerce à Poitiers, c'est Tours-Poitiers. C'est une école Tours-Poitiers qui fonctionne bien, qui a de beaux classements, mais quand on regarde Balancier, elle n'est pas équilibrée à 50% Tours, 50% Poitiers. Hein, il faut que Poitiers morde dedans. hein, pour garder, garder sa place. Et Poitiers a une spécificité, c'est l'accueil international. Et on me disait, les personnes que je rencontrais à juste titre, que l'accueil et la rencontre de ces étudiants, l'accueil est essentiel. Donc je pense qu'au niveau de l'accueil, il faudra qu'on parle avec l'université. Il y a un travail de fait à faire. Et moi je souhaite, mais ce n'est pas sur cette réunion qu'on va l'aborder, il faut aussi qu'il y ait un lieu en cœur de ville, au cœur de la ville, pour les étudiants. Je crois qu'il faut que les étudiants puissent s'approprier ce cœur de ville plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Je fais une parenthèse, vous allez me dire que je suis très mesquin, mais ça, j'ai ça depuis 10 jours dans ma tête, il faut que je vous le dise. Je n'arrive pas à comprendre que la ville et l'université ne se soient pas mis encore d'accord pour faire un parking payant pour les voitures, pas payant, gardé pour les voitures d'étudiants sur le campus. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à déboucher là-dessus. C'est la condition première, surtout si on fait une voie en site propre entre l'hôpital, le campus, le centre-ville, etc. C'est au lieu de faire des parkings souterrains ou je ne sais quoi, il y a la place, il y a toutes les possibilités. Alors écoutez, s'il y a un certain nombre de fonctionnaires qui ne comprennent pas ça, comment on peut faire, on va leur expliquer. Mais il faut faire ce parking, c'est une solution durable, hein, qui permette de stocker des voitures d'étudiants dans un endroit bien placé et qui réduirait dans la ville de Poitiers, hein, un nombre de voitures et le confort. Bon, je m'énerve un peu là-dessus, si j'ai découvert ça, j'ai regardé, je me suis renseigné. Ah ben, on me dit, c'est compliqué, il y avait des problèmes juridiques. Tu parles des problèmes juridiques, on doit être capable de trouver cette solution. Je ferme la parenthèse, mais c'est à travers ces petits problèmes qu'on trouvera des solutions. Sur l'Université de Poitiers, j'y reviens, bon, il y a 3 sites. Moi, j'assume, hein, site du Futuroscope, j'assume. Ceux qui étaient là, vous vous souvenez des débats. Hein. Pour les plus jeunes, je rappelle que l'enjeu était quoi? L'enjeu, c'est que le ministère, à l'époque, ne voulait pas restructurer l'ANSMA sur place parce qu'il y avait suffisamment de surface, mais de la surface inutilisable. Et donc, l'opportunité a été de créer l'ANSMA ailleurs. Monori, qui montait son Futuroscope, a dit « Je suis candidat pour accueillir le Futuroscope, l'ANSMA ». Et autour de ça a été constitué le pôle des sciences pour l'ingénieur, avec des petits dérapages. Enfin, c'est une réalité qui s'impose à nous. Le seul souci que nous devons avoir aujourd'hui, c'est que les 3 sites avancent à même vitesse. Je suis content que la ville de Poitiers ait créé un syndicat sur le campus. Je crois qu'on peut aller plus loin. Pour qu'on y réfléchisse, on peut aller plus loin encore d'intégration du campus au niveau du centre-ville. Sur le biopôle, je crois qu'il faudra qu'on y réfléchisse ensemble. Catherine Coutel, Jacques Centreau, ont eu raison de lancer avec vous cette notion de biopôle. Ceci étant, on crée des biopôles beaucoup en France. Hein, parce que c'est logique. C'est des thématiques qui sont importantes pour l'avenir. Mais je crois qu'il faut réfléchir. Alors, je sais bien le créneau qui a été choisi, en particulier sur les médicaments, les essais sur les médicaments, tout ça est important. Je crois que maintenant, il faut qu'on affine un peu les choses et puis qu'on voit comment faire avancer les choses. J'en viens à un autre sujet, c'est la recherche médicale. Le CHU sera définitivement sauvé si on affirme la vocation de recherche au niveau du CHU. Parce que le CHU est une belle machine, la faculté de médecine s'est bien relevée, l'hémorosclosus grâce au travail de Gilles, etc. Il y a un travail qui a été fait, important. Aujourd'hui, il faut qu'à travers l'INSERM, et je vois des personnes ici dans la salle qui attendent, je ne sais pas si il y a des nouvelles, qui attendent des décisions, encore, sur la recherche clinique, il faut qu'au niveau de l'INSERM, on puisse avancer là-dessus. Il y a de bons dossiers, il faut se battre, mais je crois que c'est extrêmement important sur cet aspect de la recherche. D'autre part, ce que je voudrais dire aussi, ça concerne la professionnalisation au niveau universitaire et les licences professionnelles. Je sais que chez vous, il y a une réflexion qui est menée. Je pense que c'est important à développer, mais toujours avec cette attitude. Ne culpabilisons pas l'université. Parce que le discours qui est de dire « Ah oui, mais l'université ne donne pas des métiers, vous savez. Hein, » c'est comme quand j'étais au Conseil régional, mais c'est changé maintenant, Jean-François. Ils réfléchissent beaucoup au Conseil régional, mais on ne réfléchissait pas à notre époque. Je me souviens des conseillers régionaux. Oh, on veut bien mettre de l'argent dans la recherche, mais il faut qu'il y ait des applications qui servent sur le territoire. Il ne faudrait pas que sur la professionnalisation, on ait le même débat. Non, l'université, on sait ce que c'est, le transfert de savoir. Et, bon, s'il y a des créneaux de professionnalisation, faut le faire, mais je pense qu'il y a une certaine réflexion à mener. Et puis, dernière chose sur un sujet sur lequel je suis très très attaché. Je crois qu'on n'utilise pas du tout les relations que vous avez en tant que responsable de laboratoire à l'étranger et à l'extérieur. Vous êtes des ambassadeurs importants de la ville et de la région. Vous pouvez créer un certain nombre de contacts essentiels pour nous. De même qu'on peut, à travers des personnes qui sont passées par vos laboratoires, qui sont passées par formation, qui ont des postes éminents à l'étranger actuellement ou ailleurs, on a potentiellement des ambassadeurs. Et que les collectivités locales, au lieu de se vendre en disant on est la meilleure, je pense que les collectivités locales, comme le font d'autres régions dans d'autres départements, retroussent les manches et utilisent ce réseau d'ambassadeurs qui pour moi est essentiel. Donc voilà très rapidement ce que je voulais vous dire. Il reste beaucoup de sujets. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des mails sur leur inquiétude sur la recherche, sur des réunions qu'ils souhaitent organiser. Tous ces sujets peuvent être abordés ce soir. J'ai déjà été trop long par rapport aux autres réunions. Tout peut être abordé, même m'engueuler s'il le faut. Mais pour moi, l'université et la recherche, c'est vraiment une passion. C'est une passion en tant que parlementaire. Mais si je devais demain diriger cette ville avec l'équipe, ça sera pour moi, dans ma tête, une priorité, pas financière, d'autres politiques doivent être financées, et la ville ne pourra pas mettre des sommes, mais je crois qu'on peut être une équipe municipale avec d'autres, avec le conseil général, avec le conseil régional, bien entendu, on peut être des moteurs, faut-il encore choisir avec vous les bons thèmes, les bonnes priorités. Je pense que si on a choisi les bons thèmes, les bonnes priorités, cette université pluridisciplinaire a encore de belles années devant elle. Mais c'est une politique non pas de ligne Maginot qu'il faut faire. On ne sera jamais pôle d'excellence partout. Il faut faire des alliances et je crois que c'est une politique d'alliance qu'il faut faire. Et ce que vous avez entrepris, moi j'y souscris totalement. Dernière chose, mais on l'abordera dans la question, le problème du transfert. Bon, il y a des structures qui existent aujourd'hui à l'université. Il faut les encourager, qui ont donné un certain nombre de résultats. Vous savez le problème de nos PME aujourd'hui en France par rapport à l'Allemagne, quand on regarde en particulier les derniers chiffres du commerce extérieur, on a au deux bouts des PME une difficulté majeure. Pour les toutes petites entreprises, c'est le décollage. Et ensuite, pour les PME, les grosses PME n'arrivent pas à passer, comme en Allemagne, au stade supérieur, et ce qui fait que ces PME ne peuvent pas être compétitives au niveau international. On a ces deux problèmes qui est au cœur du dispositif, et malheureusement, je ne vois pas venir aujourd'hui des dispositifs qui pourraient l'encourager. Voilà. Alors, qui veut commencer ?
Vas-y. Tu veux un micro ?
Bon, je vais revenir sur le... Comme tu t'en doutes, sur le problème de la recherche.
J'ai reçu tes mails. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Montubert de faire une réunion ici.
Oui, à ce point-là est possible, effectivement. Non, mais quand tu dis, je vais reprendre juste une phrase, il y a un malaise dans les organismes de recherche. C'est plus qu'un malaise, quand même. Parce que même si les chercheurs, enseignants-chercheurs ne se manifestent pas beaucoup actuellement, quand on est dans les universités, dans les laboratoires, il y a plus qu'un malaise. Le financement de la recherche, on pourrait reprendre les différents points que tu as exposés, en particulier le dernier sur le transfert, est déterminant. L'ANR ne fonctionne pas bien. Tu as dit que l'ANR ne fonctionnait bien, l'ANR ne fonctionne pas bien. Elle assèche le budget des organismes de recherche, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est réel. Le budget de l'ANR va être l'année prochaine peut-être d'un milliard d'euros. Il doit être cette année à 800 millions d'euros. Le budget de fonctionnement du CNRS est de 250 millions d'euros. Notre ministre a déclaré dans un article de la recherche de janvier ce chiffre-là, 250 millions d'euros de financement de fonctionnement de la recherche du CNRS, 250 millions d'euros récupérés par les laboratoires du CNRS de l'ANR. 1 euro ANR égale 1 euro CNRS. Complètement aberrant. Complètement aberrant. Ce n'est pas le même argent et la destination n'est pas la même. Je crois qu'il y a dans ce pays une incompréhension de ce qu'est la recherche, de ce qu'est le transfert de technologies, de ce qu'est l'innovation. On a asséché, on a créé un malaise.
Pour que les choses soient claires, est-ce ta position, tu es contre l'ANR ou tu penses qu'elle a trop de moyens ?
Je ne suis pas contre l'ANR, on ne peut pas être contre le transfert techno. Par contre, je suis contre l'assèchement des organismes de recherche. On ne peut pas, n'importe quelle personne sensée et qui devrait nous gouverner ne peut pas être contre. On ne peut pas faire du transfert si on n'a pas de pôle. J'ai l'habitude de dire, il faut un donneur, il faut un accepteur. C'est ma déformation de chimiste. Si tu supprimes l'effort financier envers le donneur, tu ne peux plus, à terme, tu vas assécher et tu ne pourras plus rien transférer. Donc, plus on créera d'ANR, plus il faut mettre de l'argent dans la recherche fondamentale. Je crois que les gens n'ont pas compris, et certains présidents d'université que j'entends raconter des inepties n'ont pas compris non plus. Ce n'est pas celui de Poitiers, bien.
Ouf.
Bon.
C'est l'aurait foutu dans le beau drap, ça.
Mais c'est extraordinaire. Plus on va vouloir faire de transferts, plus il faut de moyens en recherche fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'il faut plus de personnel pour faire marcher les grands équipements, et il faut plus de moyens récurrents, même si Bercy n'aime pas ce mot, pour les laboratoires de recherche. Le fonctionnement qui vient, l'argent qui vient de l'ANR, sert à payer qui ? Sert à payer du...
Sur les crédits récurrents, je confirme, oui. C'est... Et même Pécresse, qui a l'honnêteté de le dire, reconnaît que c'est Bercy qui a bloqué.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, le problème fondamental, il est là. Donc, on ne peut pas continuer de dire qu'il faut faire de la recherche, de l'innovation pour que les entreprises en profitent. Ça n'est pas ce qui est fait dans la réalité. Donc, l'ANR ne fonctionne pas bien. Et il faut mettre, pourquoi pas, mettre de l'argent en transfert. Pourquoi pas ? Je suis rien contre, j'ai fait toute ma vie de transfert. Pas un problème. Mais il ne faut pas assécher la recherche, ce que j'appelle, moi, la recherche. On n'a peut-être pas la même définition de la recherche. C'est peut-être là qu'est le problème, parce qu'on a un certain nombre de gens qui parlent de recherche. Je me demande s'ils savent ce que c'est que la recherche. Bon, premier point. Et ça, toute la chaîne de réforme de la recherche qui a été mise en place, tu as cité l'AERS, mais tu peux, le Haut Conseil à la science, auprès du président de la République, auprès du Premier ministre, l'AERS, tout ça, en plus, est constitué de gens nommés. Le rôle du comité national est minimisé, alors qu'il faisait correctement son boulot. Les gens qui s'intéressent à la science voient qu'il y a un seul endroit où il y a un rapport de conjoncture digne de ce nom, c'est par exemple dans les comités nationaux du CNRS ou au CNESR. Ailleurs, je n'en connais pas. Donc, on ne peut pas accepter, enfin, on doit l'accepter, bien sûr, mais on ne peut pas le faire sans râler. Ou sans donner des arguments qu'on a déjà évoqués depuis longtemps. Hein. Le projet de réforme, on n'est pas opposé à une réforme de la recherche. Les chercheurs ne sont pas opposés. En 2004, on a proposé un projet de réforme. Il y a un pavé de 500 pages. On n'est pas opposé à une réforme, mais pas une réforme qui conduit à la disparition de notre système de recherche, de fait. Hein. On pourrait épiloguer de la même façon sur la loi sur la LRU. Moi, je me demande à quoi sert cette loi. C'est une loi idéologique et dogmatique. On n'a pas réglé les problèmes de fond. On a ajouté encore des problèmes avec cette loi. On en discutait cet après-midi. J'étais au fond de salle, j'écoutais. Mais il ressort plus de problèmes à résoudre qu'on en avait avant. C'est idéologique et dogmatique. Et toutes les deux lois de recherche et d'enseignement, je l'ai dit moi personnellement dès le départ, je l'ai dit parce que je l'ai entendu des gens qui ont proposé cette loi. Je me trouvais à des réunions, des hauts commissaires à sciences qui sont dans les sphères Et ils l'ont proposé comme ça, pour ces raisons-là.
Merci. D'autres interventions? Oui. On sait, une multitude d'intervenants. Oui.
Sur le PRESS, on est de très nombreux universitaires parfaitement d'accord sur l'espace que crée le PRESS et de collaboration. La question que je voulais vous poser, c'est en tant que médecin et chercheur, peut-être l'incohérence de l'espace géographique actuel du PRESS entre Tours, Poitiers et Limoges, qui m'interpelle alors qu'on a constitué il y a très peu de temps l'espace Hugo des hôpitaux universitaires du Grand Ouest, qui est un espace de collaboration scientifique, médicale, universitaire et de recherche, qui est disjoint de l'espace PRESS, qui est évidemment un espace universitaire. Quel est votre sentiment ?
Moi, ça n'avait rien à voir avec ce qui vient de... Non, je veux dire, simplement, il n'y a pas Tours actuellement, puisque c'est uniquement Limoges, Poitiers, La Rochelle. Mais Hugo, pardon.
Non, mais un mot d'explication, peut-être.
Non, je pense qu'il y a une logique qui est assez différente avec le réseau des CHU qui ont été créés à un autre moment avec une autre logique. Je pense qu'il faudra les relier, je ne sais pas de quelle façon. Mais déjà, l'université, par exemple, est très impliquée dans ce réseau Hugo.
Mets ton micro plus.
Pardon. Moi, je ne vais pas parler de ça. Je voudrais juste revenir sur, peut-être recentrer sur Poitiers, sur quelques points. Avec un point qui est revenir sur le pôle de compétitivité sur lequel je voudrais peut-être dire deux mots puis avoir ton opinion plus précise. Sur le cœur de ville et la recherche, il faudra revenir aussi au cœur de ville et les étudiants évidemment, et sur le CPER. Peut-être d'abord commencer sur le CPER pour dire que je pense qu'on est content de l'évolution qu'a pris le CPER par rapport à ce qu'on pouvait imaginer au départ, c'est-à-dire une ouverture vers des sciences qui ne sont pas forcément des sciences à transfert de technologie, on va dire, directe. Et là, la position de la CAP était intéressante en ce sens qu'elle a reconnu deux axes là-dedans qui sont un axe sur l'apprentissage, donc les aspects cognition, et un axe sur la santé. Donc, une de mes questions, c'est que tu nous dises comment tu vois le CPER et son avenir, son articulation par rapport au volet CAP, on va dire, de la ville. L'autre point, c'est d'essayer de rediscuter sur le fait que lorsqu'on fait les places aux sciences, on récupère une visibilité sur des milliers, peut-être 5 à 6 milliers de personnes, d'habitants de la ville, en faisant ce que les chercheurs viennent dans la ville et non pas l'inverse, qui est toujours plus difficile. Donc, je voudrais avoir ta position sur l'ouverture de la ville de Poitiers par rapport au domaine de la recherche, qui, à mon sens, est trop souvent méconnu. On a eu la période, souvent la recherche, où on est allé vers les citoyens, on s'est aperçu qu'on avait un retour et en même temps un défaut d'image, peut-être. Donc il faut savoir comment la ville peut nous aider à avoir ce rôle sociétal, ici, dans la ville de Poitiers. Et l'autre point sur MTA sur lequel je voudrais revenir, c'est mobilité et transport avancé, donc c'est le pôle de compétitivité dont on dispose. La communauté scientifique est interpellée par le phénomène actuel où on voit les financements qui arrivent par l'ANR au plan national, on voit les financements qui arrivent dans les pôles de compétitivité, et il est exact qu'on en a un qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait imaginer, mais je pense qu'il n'y aura plus d'autres pôles de compétitivité. Et que dans le Poitou-Charentes, on a quand même un outil qui est celui-là. Donc est-ce qu'il y a des moyens, à ton sens, de, je dirais, récupérer quelque part un peu cet outil qui sera le seul qu'on pourra avoir de cette nature au niveau français, sachant aussi l'autre aspect qui est quel est le positionnement dans le même ordre d'idée avec le pôle éco-industrie, qui est donc porté pour la région, mais sur laquelle la ville a peut-être quelque chose à faire. Voilà.
Moi, je m'exprimerai, moment venu, là-dessus, très, très clairement, peut-être pas par la campagne municipale, si je ne voudrais pas que ce soit un sujet polémique. Et je ne voudrais pas laisser croire que je mets des réserves parce que Raffarin a mis un pôle de compétitivité. Ce serait, de ma part, totalement stupide. Et tu as bien compris tout à l'heure, quand je l'ai exprimé, c'était sur le fond que j'ai exprimé. Tout d'abord, avec le pôle éco-industrie, c'est une rigolade. dans n'importe quel coin civilisé, on n'aurait pas barré la route à la région. Ça a été des petites affaires pour de la petite politique au détriment d'une logique qui était évidente. Et quand vous discutez avec des acteurs, Barbier, Fresnes, les autres, sont tous d'accord, mais ils ont une obligation de réserve, ils sont pris coincés entre collectivités locales, on les prend en otage. Donc ce sont des chercheurs avant tout, ce sont des gens qui bossent. Donc tout ça est ridicule. Mais je dirais à un moment, mais je préfère le dire, quand les élections seront passées, ça aura plus de poids que pendant la campagne électorale, parce que pendant la campagne électorale, on m'accusera de faire de la polémique. Mais voilà le fond de ma pensée. Mais quand ils vont évaluer le POS MTA, moi je suis d'accord. De quoi ils vont se rendre compte? Bah qu'il y a de l'argent de l'ANR. Mais l'argent de l'ANR, le réceptacle, c'est le comité d'éligibilité du pôle, où on trouve des laboratoires, parfois pas de vin, mais bien souvent des laboratoires qui ne sont pas sur le territoire, avec des entreprises qui demandent à être éligibles, qui n'ont pas leur centre de recherche sur le territoire. C'est le monde à l'envers. Eh bien, n'importe quel audit va vous le dire, ça. Il n'y a pas besoin d'être grand spécialiste pour se rendre compte de ça. C'est ça, notre problème. Et alors, qu'est-ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui? Ils essayent de changer totalement la nature du pôle MTA. Ils font un pôle de démonstration, d'essai, mais ça ne fait rien à voir. Alors, d'essai, comme ils ont de l'argent, ils vont mettre la bille sur des bancs d'essai et ils vont dire aux entreprises, ben, on vous le fait gratuit. Ça va être ça. Et donc, à un moment ou un autre, j'ai peur qu'on ait un certain nombre de difficultés. Moi, je peux vous dire, je parle prudemment, j'y ai mis mon nez, j'ai alerté. Je crois que le préfet de région et le trésorier payeur général ont fait correctement leur travail. J'en ai pas rajouté. Mais aujourd'hui, on les met en garde. Et je sais que les services de l'État les mettent en garde pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Donc il y a un problème d'utilisation d'argent public et il y a un problème... Bon, moi, je pense là-dessus, tout le monde devrait se mettre autour de la table avec comme point central l'université, qu'on se mette autour de la table et qu'on trouve une solution. Et puis je pense, pour aller jusqu'au bout, que sur ce pôle MTA, il y a un problème de compétences. Je l'ai dit là encore, je vous le redis ça, il y a un problème de compétences. Être commercial, c'est pas être chercheur. Voilà. Je vous ai tout dit. Là, j'ai pas fini. Je te redonnerai la parole. Concernant le rôle de sociétal, comme tu dis, de la recherche, et le rôle de... Moi, j'ai dit déjà tout à l'heure qu'il faut que l'université s'approprie le centre-ville. Moi, je réfléchis à un certain nombre de choses, et y compris sur des lieux singuliers qui pourraient exister au centre-ville. Mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse entre nous. Je ne vais pas vous lancer des gadgets là, sur toute une série d'actions qui ne coûteraient pas forcément cher pour remette la recherche, y compris avec les pots de vin. Ce qui me fait une parenthèse, je le dis devant le président et je le dis devant le directeur, l'espace Permanence France aura un rôle là-dedans central à jouer. Mais je le dis aussi, l'espace Permanence France a réussi, et même des hautes personnalités le citent, l'espace Permanence France, c'est, je vous le signale, pour ceux qui l'ignorent, un des rares pôles de culture scientifique et technique qui reste en France. Quand on voit l'état du réseau, ce qu'il était il y a 10 ans ou 15 ans, et ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est dramatique. C'est dramatique pour notre pays. À un moment où la notion de progrès même est remise en cause par nos concitoyens, où il y a vraiment entre la science et nos concitoyens un divorce, que ces pôles-là disparaissent. Donc moi, j'ai l'intention, si nous sommes élus, qu'on revisite la mission d'intérêt général qu'a l'espace Permanence France avec les collectivités qui financent, et qu'on précise, et que peut-être on redonne un coup de fouet à nouveau par rapport à tout le travail qui est fait et qui est essentiel. Donc je pense que c'est pour nous un bras séculier qui peut être extrêmement important. Donc on se mettra autour d'une table, on mettra un certain nombre d'actions, on a deux cibles, c'est-à-dire la population poitevine, qui est importante, et deuxièmement, il y a l'extérieur, et j'ai quelques idées sur l'extérieur pour mobiliser un certain nombre de choses. Il ne faudra pas être prétentieux, je connais la taille de la ville, mais il ne faut pas être trop modeste aussi, on a des potentialités, on a des choses à faire connaître. Sur le CPER, les orientations de cap, moi je suis favorable. Je pense qu'en particulier le thème santé qui a été pris sur toutes les problématiques du vieillissement, c'est des choses sur lesquelles une ville doit s'impliquer. Parce que vous prenez sur le vieillissement actuellement, on s'en rend pas compte. Un département comme la Vienne, je ne tire pas la couverture à la ville, et la ville peut devenir exemplaire. Parce que le CHU, je parle sous contrôle des médecins aujourd'hui, le CHU est en train de mettre une filière gériatrie en place actuellement de haut niveau au niveau du CHU. Hein. Et donc on va avoir la filière complète dans ce département, mêlant le médical et le médico-social. Je crois qu'en termes de recherche, il y a des choses à faire là-dedans. Et moi, je ne suis pas du tout défavorable à ce que fait, la ville et les orientations. Donc, pour moi, il n'est pas question de remettre en cause ça. Sur le découpage médical et ce que fait Jean-Pierre Gesson avec son équipe sur le PRESS. Je crois que Jean-Pierre Gesson et son équipe fait au niveau du PRESS la seule chose qu'ils peuvent faire, qui doit être fait. Bien entendu, ils auraient souhaité aller plus largement, Tours-Orléans, mais Tours-Orléans, il y a plusieurs problèmes, je parle sous le contrôle encore des universités qui suivent ça, des universitaires, parce que dans le PRESS, il faut associer aussi les grandes écoles. Et je vous signale qu'à Tours et Orléans, hein, je parle sous le contrôle, il y a quelques problèmes à régler et qui sont pas forcément évidents. Nous, dans SMA, ça va, mais donc il y a ce problème-là qu'il faut avoir en tête. Deuxième problème qu'il faut avoir en tête, il y a une logique aussi interne Tours-Orléans. Est-ce qu'ils veulent aller vers la fusion ou pas? C'est une question. Alors, moi, là-dessus, je suis pragmatique et je soutiens ce que fait Jean-Pierre. Je suis pragmatique, c'est-à-dire, commençons par ce qui est constructible immédiatement. Ça enclenchera. Et après, on élargit le cercle. Mais sous réserve, je le maintiens bien, et c'est dans l'esprit que l'université travaille là, sous réserve que le conseil d'administration, hein, les conseils d'administration soient totalement associés. Il ne faut pas que les presses, moi je le redis publiquement, soient à nouveau des structures à terme, hein, qui puissent remettre à mal le processus démocratique qu'il y a au sein d'université. Il faut l'avoir en tête là aussi. Alors, sur le fonctionnement, mauvais fonctionnement de l'ANR, je les ai auditionnés là récemment, il y a quand même des progrès. Hein, faut dire les choses. Il y a des progrès parce que sur les appels d'offres maintenant, ils ne se servent plus directement. Hein, il y a une répartition qui se fait correctement. Simplement, ce que vous disiez tout à l'heure et ce que tu disais, c'est qu'effectivement, je ferme ce téléphone, il faut qu'on fasse attention, car je vous signale qu'au niveau de l'ANR, on donne la priorité au pôle de compétitivité. Hein, on donne la priorité au pôle de compétitivité. Donc il ne faudrait pas que, par une mauvaise gestion des pôles de compétitivité, etc., on réduise, etc. Et les chercheurs, là, qui sont nombreux, vous le savez, mais les crédits récurrents, ce n'est pas rien. Parce que si on finance des projets et on ne finance pas la structure meurt et demain, il n'y aura plus de projet. C'est ça. Hein. Oui.
Écoutez, moi, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Alfredo Penavega. Je suis collaborateur d'Edgar Morin. Et je souhaiterais témoigner plutôt que... Enfin, j'ai beaucoup à dire sur l'université puisque... Depuis quelques années, on anime avec Edgar Morin un observatoire qui s'appelle l'Observatoire international de réforme de l'université. Donc, c'est un observatoire c'est un réseau en fait d'environ 250-300 chercheurs par le monde. Et il y a un site www.horus-int-international.org. Et vous allez voir, depuis 7 ans, nous travaillons justement cette question de la problématique de l'université. On réfléchit, on a beaucoup du mal à essayer de faire passer nos idées en France parce que bon, il y a un problème sérieux. Ici, on parle de la réforme, mais quelle réforme? Et tous ces thèmes que vous traitez ici, nous les traitons ailleurs, dans des autres pays, où les gens, où les gouvernements, les universités sont plus ouvertes à des changements profonds. On vient de faire récemment un forum Europe-Chine à Barcelone, dont mon institution que je dirige, je suis directeur scientifique, on a pendant 3 jours discuté les enjeux européens et chinois concernant la place de l'université dans le monde. Donc, mais malheureusement, en France, on n'est pas écouté. Et c'est paradoxal, d'accord ? Parce que, et c'est paradoxal, mais en même temps, c'est cohérent, parce que non, notre projet, notre proposition, disons, notre discours, c'est réformer profondément l'université. Ce n'est pas uniquement une réforme administrative. Hein. C'est essayer de réformer aussi, réformer la pensée, hein, comme on dit Edgar Morin. Dans cette logique des observatoires, j'ai eu la chance de connaître Didier Moreau, ça fait 10 ans, et on s'est rencontrés récemment. Et avec, si je veux rendre hommage, puisqu'il est là, Jean-François Macaire, on s'est connus, ça fait très peu de temps, et je lui ai présenté un projet à l'époque. Je dis, voilà, j'ai un projet, on anime avec Edgar Morin une université européenne d'été, et on souhaiterait, puisque j'ai un partenaire ici à Poitou-Charentes qui s'appelle Didier Moreau, je souhaiterais qu'on fasse cette université ici à Poitiers. Et on a fait une université le mois de septembre qui a eu un impact énorme.
Où ça ?
À Saint-Jean-d'Angély. Et qui a éveillé, je pense, dans la région, un grand intérêt. Je pense que tout n'est pas négatif. Il y a des choses qui sont positives. Et dans le positif, je pense qu'il y a cette grande opportunité de pouvoir faire de la région Poitou-Charentes, de la ville de Poitiers, un pôle, je ne dis pas d'excellence pour l'instant, parce que je pense qu'il faut d'abord dire un pôle de référence. Et plus tard, peut-être un pôle de pertinence sur certains thèmes, disons, de recherche. Et un des thèmes donc, qui a été traité pendant ces 4 jours avec des chercheurs qui sont venus du monde entier. On a eu des Chinois, des Africains, des Latino-Américains, des ministres, des élus et des grands scientifiques. Notre ami Michel Brunet était là. Donc, on a quand même...
Il est en Libye, là. Égypte, Égypte.
On a quand même, justement, essayé, à partir de cela, monter un grand réseau international. Et le témoignage que je veux porter ici, c'est que à partir de ça... Aujourd'hui, l'espace Maine de France joue un rôle très important, puisqu'il découle de cette université européenne d'été 3 choses importantes. D'abord, qu'il se met en place un énorme réseau international sur des thèmes qu'aujourd'hui sont des thèmes qui nous touchent à tout le monde. Politique des civilisations.
On est demandé, voilà, on se demande si le concept d'Edgar Morin n'a pas été mal interprété.
Le problème,
donc il faut faire une université.
Le problème, c'est qu'il a été récupéré. Nous l'avons déjà traité, on le traite depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau, ça. Le problème qui a été récupéré, malheureusement, par des gens qu'ils ne connaissent pas. Bon. Donc, première chose importante, c'est qu'on met en place, avec l'espace Maine de France, c'est ça qui est intéressant, c'est que... Bon, et ce n'est pas l'université. Là, du coup, c'est l'espace Maine de France. On met en place un énorme réseau international mondial. On veut faire de cette expérience quelque chose qui aura une pérennité, puisqu'on va faire la prochaine également ici à Poitiers.
C'est quand ?
C'est le mois de septembre. D'accord ? Mais les choses les plus importantes, c'est que du coup, l'espace Maine de France commence à s'internationaliser, puisqu'on est allé au Chili... Et les universités chiliennes sont partantes justement pour prendre l'expérience espace Maine de France au Chili. Et plus intéressant encore, il y a une mairie, une municipalité dans la banlieue de Chili qui veulent installer une université populaire. Ils veulent s'appuyer sur l'expérience de l'espace Maine de France. Donc du coup, vous voyez que Poitiers peut être utile. Enfin, les universités de Poitiers peuvent être utiles. Le problème, c'est que
il faut de l'audace, il faut se lancer. Et il faut que les autorités locales nous aident.
Mais on sait se lâcher.
Il faut. Donc quand nous interpellons par exemple la région, il dit bon, il faut absolument que la région prenne conscience.
Et la région s'est lâchée ?
Mais il faut que la région
se lâche. Jean-François, pour que la région se lâche.
Et il faut, mais il va se lâcher. Donc vous voyez, ce sont d'accord. des petites choses qui peuvent avoir un impact important. Et du coup, votre discours peut être cohérent.
Mais s'il n'était pas là ?
Pour l'instant, je ne crois pas. Mais on peut en discuter.
Enfin, t'as des copains, toi ?
On peut en discuter, parce que de toutes les façons, je pense d'accord. que ce n'est pas avec la compétitivité qu'on va sortir vers le haut. D'accord ? La compétitivité, d'accord, mais il faut penser à autre chose. Il faut mettre les chercheurs, il faut mettre la science au centre de la question de la problématique sociale de la ville. Il faut que l'université soit... L'université, c'est la société, et la société, c'est l'université. Donc,
On a deux problématiques sur Poitiers sur lesquelles il faut travailler. L'espace Permanence France doit être un espace de réflexion et de vulgarisation et de rencontre entre les chercheurs et les Poitevins. Ça, c'est une première tâche. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'expérience accumulée dans cet établissement, on peut passer à une phase supérieure. Et il y a des idées. Hein. Il y a des expériences au niveau national qui ont été prises sur la cité de la réussite, des choses extraordinaires sur les débats. Il faut réfléchir concrètement. Mais il ne faut pas faire ça par des annonces et que rien de non. Il faut réfléchir avec le conseil d'administration de l'espace Permanence France. Et deuxièmement, il y a à l'extérieur, après, des relais. Alors, si ces expériences d'université, comme l'a entrepris la sphère d'Edgar Morin, peuvent être développées, bien entendu, c'est des thèmes tout à fait essentiels pour nous. Alors, oui, et puis Catherine, un micro.
Oui, moi je voulais revenir d'une manière beaucoup plus modeste, mais enfin quand même, il y a un mot qui n'a pas tellement, enfin je ne l'ai pas entendu, c'est le mot service public. Et pour moi l'université c'est avant tout un service public. Et revenir aussi sur la LRU, enfin ça doit, et l'université et la recherche, ça doit et rester un service public. Et pourquoi moi je suis contre, fondamentalement contre la loi LRU, parce que je considère que c'est une loi qui remet en cause cette notion de service public. C'est pas le seul service public qui est remis en cause en ce moment. Il attaque par les statuts des personnels, ça a été évoqué, et aussi par le service aux usagers. Et c'est une loi, je trouve, qui met les établissements en concurrence. On a parlé de la politique d'alliance, de réseau, de collaboration, des choses dynamiques et d'aménagement du territoire. La loi LRU attaque tout ça. Et je crois que effectivement, le PRESS qui est mis en place est positif parce que il est effectivement dans cette notion de collaboration dans le territoire. Mais c'est pas le cas de tous les PRESS, hélas. Et c'est évidemment pas la notion, la logique de la LRU. Je voulais aussi revenir sur, ça a été évoqué par Jean-Paul, sur par les chercheurs, la vision, le malaise, je ne sais pas si on peut appeler ça le malaise des chercheurs, et aussi des enseignants-chercheurs, qui est vraiment en ce moment, je crois, très important. Et je crois qu'il y a le problème aussi, la question qui se pose, c'est quelle est la mission de l'université, quelle est la place dans le pays. Ça, c'est des questions que se posent de plus en plus les collègues, à quoi ils servent, vers quoi vont leurs étudiants. Il y a le problème de la qualification des emplois. Ça, c'est des questions aussi qui sont liées aux problématiques de l'université et qui, c'est peut-être pas exprimé comme ça, mais je crois qu'ils préoccupent beaucoup les collègues. Et puis, effectivement, la reconnaissance de leur métier. Alors, évidemment, les opérations comme Place aux Sciences, c'est des opérations que je trouve effectivement positives parce qu'il y a une reconnaissance du travail qui est fait. Les enseignants-chercheurs, ils ne travaillent pas que 192 heures dans l'année. Hein. Ils font autre chose. Et alors, le dernier point sur lequel je voulais venir, c'est beaucoup plus pratique. C'est sur, effectivement, les différents sites de l'université, le transport entre les différents sites. Moi, je suis sur le site du SP2MI. Il y a un transport routier énorme entre le centre-ville et le SP2MI qui devient complètement infernal. Il y a les bon, ça, c'est déjà essayé d'étudier, mais je crois que c'est toujours voir ce qu'on peut faire entre le SP2MI et le campus. Mais il y a aussi le transport pour l'UFR de sciences humaines entre les différents sites. Est-ce que finalement, on ne peut pas aménager, aller vers la... Je sais, si ça se trouve, ça existe, je ne sais pas, la gratuité pour le transport entre les deux sites pour les étudiants, enfin, faciliter ces transports publics, enfin, je crois que c'est une question importante, et vraiment, sur le site du SP2MI, ce déplacement, ça devient vraiment une problématique importante. Alors, c'est rien à voir avec la LRU.
Je vais répondre là-dessus. Catherine, je réponds en que je ne monopolise pas la parole.
Moi, je voulais revenir sur l'idée de Jean-Paul et la science dans la cité qui m'intéresse, et les chercheurs et les scientifiques dans la cité. Comme tu le disais, on a pu constater quand Place aux Sciences se passe sous le chapiteau sur la place d'Armes, c'est un énorme succès et il y a une vraie rencontre entre les Poitevins et les chercheurs qui, d'ailleurs, font des efforts très considérables pour rendre accessibles certains aspects de leur recherche, parce qu'il faut les amener sous un chapiteau et que c'est un travail intéressant de nouvelle conception. On a aussi, mais par contre, on n'a pas du tout dans l'autre sens, et tu le disais, quand les années, puisqu'on le fait une année sur deux, l'année où ça se passe à l'université, on a rencontré à chaque fois un quasi-échec. L'autre volet, on avait essayé avec Mendes France. Lorsqu'on a créé le Biopôle, on avait donné une mission à Mendes France dans la mission. Alors pour le Biopôle, c'est la réunion des laboratoires et des entreprises autour de l'environnement, du médicament, etc., qui a donné naissance à une centaine d'emplois et qui ont rapproché certains laboratoires d'entreprises. Bon, un certain nombre de membres sont ici. Et il y avait comme mission dans le Biopôle de faire connaître tout ce qui était autour des biotechnologies à la population. Mendes avait fait une mission. Ça aboutit à deux choses. Et je pense qu'à partir de là, on peut aller plus loin. C'est l'école de l'ADN, qui est un succès considérable, bien plus important que ce qu'on pensait. Quand on l'a monté, avec la région, on a été très expérimentaux, et puis on ne savait pas trop quel public. Aujourd'hui, on a un succès au-delà de ce qu'on imaginait. C'est, je ne sais plus combien, 10-12 000 par an, personnes qui viennent faire des ateliers à l'école de l'ADN, alors qu'on n'était pas du tout parti sur ce chiffre-là. Donc on voit qu'il y a un réel intérêt pour de l'expérimentation qui fait comprendre ce que c'est que l'ADN. Dieu sait si c'est un sujet qui a été débattu. Et il y avait eu un cheminement piéton, si vous vous souvenez, dans la ville, un cheminement comme on a des fils rouges, des fils jaunes, des fils verts entre le patrimoine historique de Poitiers, ils avaient imaginé, mais on ne l'a pas mis en place, un fil d'une autre couleur entre des laboratoires de recherche et qui rendrait aux visiteurs ou aux Poitevins l'idée d'aller d'un lieu scientifique à un autre. Mais je crois qu'il y a des formes nouvelles, Alain, à inventer de place des chercheurs dans la cité. On a un outil, nous, qui est le journal municipal. J'avais essayé, mais on ne l'a peut-être pas assez tenu, à ce que dans le journal qui est très lu, hein, on a un lectorat très important du journal municipal, qu'à chaque fois, il y a un chercheur ou une recherche qui soit présentée. Mais il faut trouver des formes nouvelles et innovantes pour faire connaître au Poitevin la richesse de la science à Poitiers, et pas seulement, si je puis me permettre, de la science dure, hein, mais de toutes les sciences. Et il faut inventer des formes nouvelles. On se rend compte que comme il y a un terreau, l'histoire de l'école de l'ADN nous a beaucoup surpris par l'ampleur de son expansion subite.
D'accord. Je voulais moi à la fois réagir un petit peu à ce qui a été dit, mais dire, je pense qu'il faut avoir deux regards sur la question de l'université, de l'enseignement supérieur et de la recherche dans Poitiers et dans la capitale régionale et l'agglomération de Poitiers. Premier regard, c'est notre industrie lourde. L'université est à Poitiers ce que le pneu est à Clermont. Et donc, déjà, ça, c'est important de l'avoir en tête. Et de ce point de vue-là, il faut la défendre. Et il faut la défendre en tant que une certaine dimension, une capacité de production, de savoir. Il faut qu'on continue à développer la pluridisciplinarité. Il faut se battre sur ce front-là. C'est d'ailleurs un petit peu le premier axe à l'époque, à la région, qu'on avait développé. C'est-à-dire qu'il faut d'abord défendre l'université de Poitiers comme pluridisciplinaire. Parce que si elle perd cette pluridisciplinarité, on serait dans une région qui n'aurait plus que des lycées, quoi. Et puis quelques instituts, mais ça ne serait pas une région. Bon. Donc, première idée, et autour de ça, bien sûr, il y a le rôle de l'université dans la ville, le culturel, etc. Puis la deuxième idée, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, nos concitoyens attendent de l'université et de la recherche que ça produise des emplois. Alors, ça devient un peu plus compliqué, mais on rentre dans la logique des pôles de compétitivité, qui n'est pas en soi une mauvaise idée. Et on nous demande, nos concitoyens nous demandent, qu'est-ce que vous allez faire ? Puisque vous avez cette université, tous ces savoirs, tous ces chercheurs, qu'est-ce que ça va nous apporter ? Est-ce que ça va nous permettre de développer l'agglomération ? Et là, je crois qu'on a là aussi des pistes qui sont intéressantes, parce que contrairement, et c'est vrai qu'on peut critiquer le pôle MTA parce qu'il a été plaqué sur l'université de Poitiers sans tenir compte des compétences, et sur le bassin industriel de Poitiers sans tenir compte des compétences de ce bassin industriel, on a par contre des savoir-faire en matière de matériaux, enfin tout ce que la fédération Péprime, de recherche Péprime peut couvrir, mais qui tourne un peu autour de la question des matériaux et de l'énergie. Et puis on a, et là il y a quand même beaucoup de compétences, et il y a aussi des entreprises dans la région et dans l'agglomération qui travaillent sur ces questions-là. Et plutôt que de se dire, est-ce qu'on est capable de faire le véhicule du futur, moi je crois que c'est un peu prétentieux pour la région Poitou-Charentes et pour Poitiers, on pourrait peut-être se dire, qu'est-ce qu'on peut apporter dans le véhicule du futur, le véhicule automobile, le véhicule aéronautique et nautique, qu'est-ce qu'on peut apporter du côté des matériaux ? Ça serait une approche plus pragmatique et qui permettrait de faire apparaître un pôle de compétences recherche et industrie qui aurait, me semble-t-il, plus de chances d'aboutir à de la création d'emplois que simplement de dire nous sommes le centre de recherche qui travaille pour Renault, Toyota, et ainsi de suite. Et le deuxième volet sur Poitiers, il est double, mais c'est du côté de la biologie, avec les éco-industries et la question du végétal qui aujourd'hui, alors là ça mérite beaucoup de recherche parce qu'effectivement on ne sait pas encore bien comment on va utiliser le végétal pour lutter contre les gaz à effet de serre, mais quand même à Poitiers il y a beaucoup de savoir-faire, donc il faut l'utiliser. Et je pense que là aussi, il y a des activités économiques derrière qui peuvent exister. Et puis le biopôle, côté plutôt biologie, médicaments, qui lui aussi a trouvé un petit peu son créneau. Et je crois qu'autour de ces trois axes-là, il y a certainement une meilleure valorisation à faire des compétences, sans vouloir dire que la collectivité locale va imposer une politique de recherche qui ne correspondrait pas aux attentes et aux capacités des universitaires. Hein. Mais en regardant ce que les universitaires savent faire, les enjeux du marché mondial et qu'est-ce qu'il y aura à vendre demain, et en croisant les deux, déjà, on doit pouvoir avoir un certain nombre de créneaux. Ce n'est pas des niches, c'est des créneaux, c'est des éléments de politique industrielle sur lesquels on peut développer demain des choses nouvelles et donc apparaître, avoir une image, je dirais, crédible sur ces questions-là.
Moi, je voudrais juste faire un point d'histoire. Moi, je suis à Poitiers depuis 20 ans, donc, enfin, dans la région de Poitiers depuis 20 ans, et ce que j'ai connu, c'est la période de structuration. Tu as cité le Futuroscope, mais bon, on avait l'équivalent sur le campus Poitiers centre avec la biologie, et il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont été menées souvent même, on va dire, contre la volonté nationale, contre l'État. Jacques doit se souvenir aussi de bagarres assez épiques avec des représentants de ministères qui voulaient plutôt tout démolir. Bon, on y est arrivé, et aujourd'hui on a des outils en place, et la grande inquiétude qu'on peut avoir, c'est que ces outils finalement à terme ne servent à rien si jamais Poitiers est balayé de la carte d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Donc comment une municipalité, puisqu'on est en train de parler d'élections municipales, comment Poitiers peut se battre à son échelle pour aller un peu contre le sens du vent aujourd'hui. Alors l'autre réflexion, c'est de se dire finalement, Poitiers a eu un rôle moteur. A eu un rôle moteur, et Catherine citait l'opération Biopôle. Elle s'est faite vraiment à partir de la motivation de Poitiers et de la CAP derrière. Donc on est parti de la collectivité publique la plus petite, on va dire, pour aller convaincre tous les autres. C'est une opération dure à mener. Et la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu vois un projet qui pourrait être porté par la nouvelle municipalité et qui viendrait à côté de ceux qui ont été montés. Donc, alors je cite Biopôle parce que c'est celui qui, pour lequel j'ai été le plus sensibilisé, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui peuvent arriver aujourd'hui?
Bon, on va essayer de répondre à tout ça. Alors, par rapport à la notion de service public, il n'y a pas de débat entre nous. L'université est un service public, c'est écrit dans la loi. C'est écrit dans la loi et est un service public. Est-ce que la loi LRU remet en cause le service public? Il y a des risques. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a eu remise en cause des diplômes nationaux et de l'accès à l'université. C'est quand même deux choses. Enfin, où il y a un risque dans la loi, c'est sur le statut du personnel, ce qui est vrai. C'est un des points forts. Nous, on a voulu, dans la loi, mettre un certain nombre d'amendements sur les postes contractuels. Ça n'a pas été possible. Et donc, il y a, et surtout avec, qui pourrait être amplifié par le système de fondation s'il n'est pas maîtrisé. Bon. Sur la question locale, non pas des transports, je parle devant le spécialiste, Robert, je parle des déplacements. On m'a dit qu'il faut parler des déplacements. Donc, vendredi prochain, je ferai une conférence de presse sur les déplacements, hein, où j'essaierai d'aborder l'ensemble de ces choses vendredi prochain. Mais effectivement, le campus et le Futuroscope seront... Vous avez délibéré, les étudiants, vous mettez en grève demain? c'est des sujets importants qui sont, à mon avis, sur lesquels, à mon avis, il va falloir s'engager et poser un certain nombre de choses. Bon, j'ai rien à rajouter sur ce qu'a dit Catherine, et ni sur ce que dit Jean-François. Simplement, on voit les thèmes, mais ne prenons pas les choses à l'envers. C'est aux chercheurs, à l'université, ça sera le rôle du plan quadriennal de déterminer les organismes, les orientations de recherche. C'est à l'État et aux organismes de recherche de déterminer les priorités qui s'imposeront à l'université de Poitiers. Moi, j'y tiens à cette façon. Après, bien entendu, il faut trouver une synergie, mais je crois que c'est important de rappeler. Et moi, j'attends beaucoup de ce plan quadriennal. Hein, j'espère, et tu vas pouvoir peut-être en dire un mot. Bah, dis un mot tout de suite là-dessus.
Non, moi, je voulais simplement, avant ça, de dire que les activités de type socio-économique sont importantes, mais la ville de Poitiers a la chance d'avoir une université qui a des fleurons qui sont vraiment typiquement spécifiques de la ville de Poitiers. Je pense au centre médiéval et je pense à un certain nombre d'éléments comme ça. Et nos concitoyens, à mon avis, attendent aussi, à travers ça, une valorisation de notre légitimité historique. Si je veux dire, les sciences juridiques sont aussi des domaines absolument historiques qui ne sont pas forcément créatrices d'emplois, mais qui sont créatrices d'images. De la ville de Poitiers et de son...
L'opération que j'entends mener avec l'équipe sur Notre-Dame, sur le patrimoine mondial, ça rentre dans cet esprit-là, parce que je pense que le centre médiéval peut développer toute une série de choses. Pour aller attention, quel est le rôle d'une ville aujourd'hui? Faut pas se raconter d'histoire. Le rôle d'une ville, la première chose, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Hein, si aujourd'hui... on regarde l'enquête qui a été réalisée sur les étudiants et que Poitiers est bien placé, même première, bonjour. Hein, et il y a une expression que je reprendrai, qui est très bien, Poitiers est la ville de tous les possibles. Je trouve que cette expression est très belle et définit bien ce qu'est Poitiers. Bon, il faut aujourd'hui que la ville, et continue, elle a commencé largement, facilite des conditions d'accueil, hein, dans tout le sens du terme, des chercheurs, des étudiants, je pense que c'est un élément essentiel. Il faut que dans le cœur de ville sur lequel on va réfléchir et sur lequel on va avancer vite, on trouve des lieux dans ce centre-ville qui permettent l'accueil et l'espace des étudiants. J'ai un certain nombre d'idées, on en reparlera, je souhaite en parler. Oui, je vous passe la parole tout de suite. Je souhaite en parler, avec l'équipe avant de lancer ça. Sur l'espace permanent, je ne reviendrai pas, j'ai des idées précises là-dessus, mais il faut qu'on en discute avec l'association qui gère cet équipement. Est-ce qu'il y a d'autres projets que le biopôle? Il faut le densifier, le biopôle. C'est un sacré enjeu. Hein, parce que les biopôles, il y en a beaucoup en France. Hein. Donc, il va falloir que vous travailliez avec nous, et on vous aidera, à trouver la spécificité. Le médicament est une spécificité, mais je sais ce que c'est territoires encore mieux, les problèmes d'essais médicaments, ce n'est pas gagné. Donc il va falloir voir hein, dans quelle direction on va aller. Sur les industries de la connaissance, la stupidité du Conseil général, hein, vraiment, ils sont petits quand même, sur un sujet qui est important. Ils viennent faire un machin entre eux. Ils n'ont même pas été capables d'associer la CAP. Quand des choses se passent comme ça à Grenoble, quelles que soient les majorités, de droite ou de gauche, on fait tous ensemble. On n'a pas été foutus. Là, alors il y a un G, je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc qui a été... Hein, un GIP, oui. Un GIP, c'est Mme Lefebvre qui est directrice de ça. Vous n'allez pas me dire qu'on ne pouvait pas faire un tour de table avec la région, etc. Le petit machin dans son coin, etc. Donc je pense que les industries de la connaissance, c'est un sujet. Malheureusement, Mme France n'a pas été entendue au moment où ils auraient dû être entendus. Donc on va voir comment on peut reprendre un certain nombre de sujets. Et il y a un autre 3-4 sujets. Mais je pense que un de mes sujets de préoccupation, c'est l'avenir de la recherche au CHU. Hein. Sachez-le, et autour de la faculté, parce que je pense que c'est un enjeu important. Mais personne ne parle des universités d'été, de ce que fait la faculté de lettres à travers médiéval tous les ans. Je sais pas si, hein. Moi, j'en ai entendu parler quand j'étais aux États-Unis ou au Canada, en disant on est venu dans votre ville parce qu'il y a cette université et c'est quelque chose d'important. Madame, un micro.
Bon, moi, je vais juste intervenir trois minutes sur la question des relations internationales de l'université, mais en général sur la question des débats sur l'université, la ville et les collectivités, où je n'entends pas passer le mot Europe. Est-ce qu'on veut faire de Poitiers une ville européenne? Il faut l'annoncer, l'afficher. Peut-être pas dans la campagne électorale, je sais que c'est un thème qui fait perdre plus de voix que d'en gagner.
Non.
On verra.
Non, mais on verra. La façon de l'aborder, bon. Ça ne me gênera pas de l'aborder, bien au contraire. Bon,
il me semble que même avec les presses, Poitiers, d'un point de vue masse critique, restera quand même une petite ville moyenne avec une université moyenne, et que c'est que dans l'Europe, en première étape et après au plan international, que les choses se développeront. D'ailleurs, on vient de parler de l'excellence à Poitiers. J'aimerais quand même mentionner un projet européen qu'on vient d'avoir en SHA, parce qu'on parle de sciences, de compétitivité, de véhicules, etc. Mais on parle aussi à Poitiers de production écrite. Et le plus grand réseau européen va avoir comme centre Poitiers. Donc, il y a un déficit d'image. C'est des choses qui ne sont pas connues. Et les collègues, peut-être, maîtres de conf, seraient un peu moins déprimés s'ils savaient qu'on avait tout ça et sauront qu'on sert à quelque chose.
Ils ne sont pas déprimés, quand même.
Non, mais tout à l'heure,
non, ça va aller
on
mieux,
se posait des questions sur notre avenir. Quand on
vous avez le droit de poser des questions.
Mais quand on se met dans une perspective européenne et dans une perspective internationale, on voit l'évolution de l'université tout à fait autrement. Sur la question de l'autonomie, je reviens 2 secondes là-dessus, la question de l'autonomie n'est qu'une harmonisation avec l'Europe, vous le savez très bien, vous le savez pertinemment, tous les Européens ont fait leur autonomie, ce n'est pas un modèle anglo-saxon, c'est un compromis qu'on arrive...
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais...
Vous me faites dire des choses que j'ai pas dit. Je dis simplement, et vous n'allez pas me contredire,
non.
Que... j'ai déjà dit que l'autonomie telle qu'elle est conçue en France ne sera jamais la même chose, sauf si on change de système, sur l'autonomie telle qu'elle existe aux États-Unis.
Mais... On n'est pas.
C'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité.
Mais vous savez bien que au niveau européen.
C'est pas un jugement de valeur.
Non, mais dans le cadre de l'EA,
alors, au niveau européen, grâce à Claude Allègre, on a fait un progrès essentiel.
Ben oui.
C'est à travers la réforme LMD, où on a harmonisé les choses. C'est une réforme que je considère, de ma part, importante. Mais cette réforme n'a pas complètement masqué les différences qui existent, historiques. Entre universités au niveau européen.
Non, mais
on est d'accord.
Oui, là-dessus, on est d'accord.
Bon, allez-y.
Mais c'est tout ce que je voulais, c'est que pour l'avenir, on a besoin, à l'international, un besoin, mais vraiment très, très important des collectivités. Et on a très bien travaillé avec Catherine pour l'accueil des étudiants étrangers. On a fait tout notre possible avec Catherine, tout ce qu'on pouvait faire. Mais pour l'avenir, il faut aller beaucoup plus loin et essayer de mutualiser... pas, malheureusement. Hein,
la liste n'est pas publiée encore.
Ben, non, il y a un besoin urgent de mutualiser les forces, même si les gens ne sont pas du même bord. Sur l'Europe et l'international, on a besoin de travailler avec toutes les collectivités et la ville et la CAP. On a quand même, on fait partie de tout, je vous raconte tout ça, mais c'est important. On est sur 80 universités en France, on fait partie des 3 universités, les seules qui ont 2 Erasmus Mundus où ils sont coordinateurs. C'est quand même, on est quand même parti sur des projets européens. On a besoin et d'image, et la ville de Poitiers doit s'afficher comme une ville européenne, véritablement. Là, il y a un très grand déficit d'image, véritablement. Et de foncer sur les projets européens, d'aller chercher l'argent où il est, on a besoin de vous. Et pour ça, il faut l'afficher vraiment.
Alors,
clairement.
Je peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Sur cet aspect international, j'espère ne pas vous décevoir. Et j'ai quelques idées, parce que choisir les personnes est important. Et je choisirai bien les personnes, et je pense qu'au niveau international, vous ne serez pas déçus. Et d'autre part, je peux vous dire, ça c'est pas un scoop, que la députée européenne sera sur la liste, ce qui est un symbole aussi très important. Mais là, je vais me faire engueuler, parce que si je dis que quelqu'un c'est sur la liste, là, je vais dire faire engueuler par les copains socialistes. Oui.
Je voudrais reprendre un tout petit peu la parole sur l'international.
Oui.
Je constate, je suis à Poitiers depuis un an, donc je ne suis pas un vieux comme tous les gens qui sont ici ou quelqu'un qui a beaucoup de tradition dans la ville. Mais il me semble que la majorité des efforts faits à l'université, faits à Poitiers, faits par les collectivités locales et territoriales, sont pour faire venir des gens de l'extérieur vers l'université. Bien. C'est un effort méritoire. Vous avez parlé que la ville doit être un lieu d'accueil, et je suis d'accord avec cette vision. Mais en même temps, et je rejoins un petit peu l'intervention précédente, il faut aussi que Poitiers se projette, envoie ses meilleurs éléments vers l'extérieur. Et je pense que dans ce domaine, beaucoup de choses sont encore à faire parce que les appuis aux gens qui veulent aller passer 2, 3 ou 4 ans à l'étranger pour parler du pays, parler de l'université de Poitiers, parler de ses compétences sont peu nombreux et en général ont beaucoup de difficultés à être aidés dans ce domaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que Poitiers est une ville de dimension moyenne. Elle devrait avoir de vrais partenaires au niveau européen et au niveau mondial, des villes un peu similaires, avec une structure à peu près identique, avec l'université comme moteur de la dynamique de la ville. Et est-ce que vous avez déjà identifié, soit en Europe, soit dans le monde, des villes avec lesquelles des partenariats renforcés pourraient être établis ?
Les discussions que je mène actuellement, mais ça sera à l'équipe de déterminer, c'est comment redonner une étape, parce que des choses importantes se font au niveau international, hein, y compris vis-à-vis de nouveaux pays, je pense à l'Afrique, des choses importantes. Et n'oublions pas que Poitiers a un rôle à jouer dans le dialogue Nord-Sud. Et je pense qu'à travers le secteur associatif qui s'est engagé là-dessus et un certain nombre d'initiatives, je pense qu'on a un credo. Mais actuellement, je ne vous en dirai pas plus, par rapport aux relations internationales, c'est sur l'aspect universitaire que je fais regarder de très près les choses. Parce que je pense que c'est la bonne porte d'entrée. On ne peut pas tout faire au niveau international dans une ville comme Poitiers, on n'a pas assez de richesses. Je crois que c'est au niveau universitaire qu'il faut mettre l'accent. Alors, bien entendu, on a les jumelages qui existent. Il n'est pas question de remettre en cause ces jumelages. Il y a du travail qui est fait. Mais en Europe, il n'y a pas besoin d'aller en Europe. Il y a un certain nombre de villes qui pourraient être très intéressantes pour Poitiers. J'en suis une, par exemple, Salamanque. Hein, pourrait être, pour Poitiers, surtout jumelé avec Coimbra, qui est même jumelé avec Poitiers. Il y a un certain nombre de choses à faire. Aux États-Unis, on peut trouver un certain nombre de choses. Bon, mais je le fais regarder actuellement avec l'optique universitaire. Et j'espère, là, vraiment, qu'ensemble, on pourra franchir quelque chose. Mais là encore, ce qui est important, j'y insiste, c'est les réseaux pour nous. pour trouver des hommes ressources là-dessus. Hein, il ne suffit pas d'afficher une volonté. Et mon souci actuellement, comme vous me posez la question, moi je vous dis tout, hein, c'est de trouver des hommes qui ont des réseaux. Hein, parce que c'est comme ça que ça peut marcher. Hein. Autrement, si on affiche un volontariste sans rien derrière, on n'avancera pas. Hein. D'autres questions ? Plus de questions ? Si ? Allez-y.
Merci. Oui, donc vous connaissez très bien l'université par rapport à votre rôle de député. Et puis toutes les personnes qui sont là connaissent bien aussi l'université parce qu'elles ont la chance d'y avoir travaillé. Seulement là, ce soir, on est là dans une réunion municipale et vous représentez, on l'espère peut-être, le futur maire de Poitiers.
Je ne représente pas ça.
Oui, enfin. J'ai une question très naïve, volontairement. Au mois de juin, je vais soutenir ma thèse en sciences humaines. Et au mois de septembre, je serai, je l'espère, poste. Oui.
J'ai rien dit, moi.
Non, mais il y a plein de personnes ici qui enseignent en fac de sciences humaines et tout ça. Et au mois de septembre, je serai, je l'espère, post-doctorante. Et je serai ce qu'on appelle post-doctorante, mais je ne serai pas officiellement post-doctorante, à savoir, je ne pense pas avoir dans les médias de post-doctorat. Et ma question naïve est, mais qu'est-ce que la municipalité de Poitiers peut faire pour moi pour que mon futur soit plus rose, qu'il y ait moins de monde qui concourt au poste de maître de conf, que... voilà. Et là, je pense que la réponse, c'est la municipalité de Poitiers. Elle
vous faites question de réponse, vous.
Non, mais... par rapport à j'étais intéressée par ce que disait le monsieur par rapport à l'international et oui, je me disais, est-ce que là la municipalité de Poitiers par contre, enfin moi je serais volontaire pour aller faire mon post-doctorat à l'étranger et voilà, il y a des bourses pour ça, mais actuellement le futur des post-doctorants en sciences humaines, il est pas rose parce que
il est pas rose dans beaucoup de disciplines, hein, c'est pas uniquement les sciences humaines. Le problème des post-docs aujourd'hui en France est un problème par lui-même. La nation investit beaucoup, on n'est pas fichu de les récupérer. Hein. C'est un gâchis individuel et puis un gâchis, j'allais dire, collectif. Hein. C'est quelque chose d'important. Bah, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que la ville créera des moyens financiers pour emmener des post-docs à l'étranger, mais je crois que c'est l'esprit de réseau qu'on doit créer qui doit permettre de créer un certain nombre de possibilités. Sur les sciences humaines, je l'ai évoqué indirectement tout à l'heure, j'espère que vous l'avez noté, quand j'ai parlé qu'il n'y a pas que les sciences dures et qu'il y a un enjeu, y compris par rapport au sujet que notre société a à régler, que les sciences humaines ont une place extrêmement importante à jouer. Mais sur les post-docs, c'est un problème qui dépasse largement la ville de Poitiers. Hein. C'est un sujet auquel... L'État est interpellé très directement, parce que c'est ce sujet-là qui aurait dû être traité avant, y compris avant la gouvernance. Oui. Ne sois pas pessimiste. Hein.
Non, je veux rebondir sur l'international, sur ce qu'a dit Saloa et Roger Fréty. Je crois qu'il y a eu un travail important de fait à Poitiers sur l'accueil d'étudiants et autres, post-docs et ainsi de suite, même... Mais je crois qu'il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Enfin, dans la ville de Poitiers, doit continuer à favoriser et à trouver des structures d'accueil pour les étudiants étrangers. Pour les étrangers, on va dire, en général. Parce qu'il n'y a pas...
Structure d'accueil de qualité.
De qualité. De qualité. Ça, c'est le premier point. Tu disais aussi qu'il y avait un réseau de relations extérieures, je dirais ça comme ça, important qui existait. C'est vrai ? Il n'est pas utilisé ou peu utilisé. On n'arrête pas, Roger Fréty peut en témoigner, on n'arrête pas de faire des rapports quand on va en mission à l'étranger. C'est comme si on écrivait n'importe quoi. Donc,
Il y
a une perte en ligne considérable. Dans les relations qu'on a, les relations internationales, on est quelques-uns à se balader de par le monde. On écrit des choses, mais ça n'est pas ou mal utilisé. Il faudrait quand même qu'un de ces jours, dans ce pays, on se serve de ça au lieu de le discréditer. Parce que c'est un peu ça.
Moi, je suis prêt à mettre, y compris des moyens humains là-dessus, hein, pour qu'il n'y ait pas une perte en ligne sur ces choses-là. Je pense que c'est dans cette direction. C'est comme ça qu'on créera quelque chose. Hein, ce n'est pas par une action de promotion que la ville de Poitiers va décider de faire un jour. C'est en mettant bout à bout toutes ces expériences, trouver des portes d'entrée, qu'on enclenchera quelque chose. C'est comme ça.
Alors, dernier point, parce que s'il m'est resté en travers de la gorge, ce n'est pas demain la veille qui va passer, c'est le pôle de compétitivité éco-industrie. Ah, je trouve scandaleux, effectivement, tu l'as signalé, que ce pôle n'ait pas été retenu pour des raisons bassement...
Hein, mais vous savez
que les avis soient... Et était écrit.
Monsieur de Villepin avait donné son accord.
Oui.
Hein, c'est une intervention expresse d'un ancien Premier ministre qui a fait que ce pôle n'a pas eu la création. C'est ça.
Tout à fait. Mais je veux dire, il y a des avis qui ont été portés, que j'ai vus écrits, qui sont scandaleux. Hein, et qui nous retournent actuellement. Bon, j'ai un devoir de réserve, je suis membre du pôle. Mais qui nous retournent.
Hein. Non, c'est un énorme gâchis, tout ça. C'est un énorme gâchis.
Alors qu'il faut là, on a une mine d'emploi considérable.
Parce que où j'allais dans ton sens, c'est la question qui est posée aujourd'hui au pôle. C'est comment on dépense l'argent. C'est ça.
Oui,
là.
Mais au pôle éco-industrie, je parle du pôle éco-industrie.
Non, mais je te parle du pôle de compétitivité, l'autre.
Oui, l'autre. Ah ben oui, ça c'est un autre problème. Oui.
D'autres interventions? Oui, attends, il y a quelqu'un là? Non? Vas-y. Après, je dois aller parler d'école maternelle et élémentaire.
Bon, tu veux... C'est moi?
Oui. Mais tu m'engueules pas.
Bon, moi, je voudrais... Non, je t'engueule pas. Hein. Je peux pas me permettre. Non, il y a trop longtemps qu'on se connaît. Donc, moi aussi, je voudrais revenir sur l'international. Bon, comme chacun sait, j'ai pas mal bourlingué. Et c'est pas si facile que ça de créer les réseaux. C'est pas si facile que ça, surtout... Alors, il y a un truc que je recommande... C'est quand on fait un rapport, surtout, faut pas l'envoyer au ministère des Affaires étrangères, parce que c'est sûr qu'il est paumé. Là. Ça, c'est sûr, il sort jamais. Hein. Donc, parce que ça, on en a fait des tonnes. Mais il y a quelque chose qui me paraît important, c'est l'international, mais c'est quand il y a un retour, c'est l'accueil. Quelque chose qui est stupéfiant quand tu vas dans une université anglo-saxonne, par exemple, ou même ailleurs, dans d'autres pays, il y a un accueil pour les gens, même dans la vie. C'est-à-dire qu'un étranger qui débarque à la gare de Poitiers, il devrait pouvoir savoir... Où s'adresser? Et c'est comme ça, c'est cette qualité d'accueil. Parce qu'après, quand même, je ne vais pas faire ce procès, mais tous les collègues qui sont ici, directeurs de labo et tout ça, on sait s'en occuper des étudiants. Bon, et aussi, comme chez nous, il y en a qui ne s'en occupent pas bien, mais d'une manière générale, on s'en occupe bien et très bien, même au-delà de ce qui est possible. Mais je dirais que l'accueil matériel que l'on ne peut pas faire, que l'université, bon, elle a fait beaucoup d'efforts, mais elle ne peut pas faire ça non plus. Et je pense que c'est fondamental. Alors, je m'adresse vers le futur maire de Poitiers. Ça, si tu peux faire quelque chose pour ça, pour cet accueil-là, je crois que c'est fondamental. Parce que ça permettra aux gens, après, de se fixer, de se trouver bien chez nous. Quoi.
Oui. Même deux.
On a créé quand même le centre de mobilité Eramor demandé par l'Europe, qui marche très bien. Et avec la mairie, d'ailleurs, on a une journée d'accueil des chercheurs invités. Et on a quand même beau site et on a une personne au service des relations internationales qui s'occupe exclusivement des chercheurs invités. Il y a la résidence beau site, on leur fait leurs papiers en ligne, ils ont leur banque, leur compte bancaire ouvert. On s'occupe d'eux depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Il y a un service et avec la collaboration de la mairie depuis 2 ans, on fait une journée d'accueil des chercheurs.
Mais il va falloir accentuer tout ça, mais il y a du travail. Mais même... Il y a une information à donner, donc cette réunion n'aura pas été inutile.
Non, mais c'est dommage parce que...
Ne l'engueulez pas.
Non,
c'est mon copain.
Non, mais ça, vous ne connaissez pas depuis longtemps.
Mais je vais apprendre à vous connaître rapidement. D'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, merci d'avoir consacré un peu de votre temps ce soir. Pour moi, ça, c'est utile parce que j'ai souhaité que ce temps de respiration démocratique soit un temps utile pour les Poitevins. Je pense que cette réunion y a contribué un peu, à sa manière, comme les autres réunions thématiques. Je vais continuer comme cela. N'attendez pas un catalogue qui n'aurait comme existence que les élections. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est de se dire, sois prêt avec ton équipe si les électeurs te font confiance le 19 mars. C'est-à-dire que c'est là où le boulot commence. Donc, moi, ces réunions me permettent d'affiner un certain nombre de choses. Mais il faudra aller trop vite, mais je le redis pour que les choses soient claires. Chacun a sa place. Hein. Vous ne verrez jamais chez moi une attitude voulant se substituer aux universitaires et aux chercheurs. C'est vous qui faites le job. Par contre, moi, je serai exigeant au niveau des collectivités locales pour qu'on soit à la hauteur de votre travail. Parce que comme tu le disais, nous sommes une université pluridisciplinaire. Rien n'est gagné pour l'avenir. Rien n'est gagné pour l'avenir. Et on sait très bien que l'université se mesure par le nombre d'étudiants, mais avant tout par sa capacité et sa force de recherche. C'est le critère essentiel. Donc c'est ce qu'on a à faire dans les 10 ans et 15 ans qui viennent, et que les Poitevins se l'approprient, cette université et cette recherche. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette réunion à l'espace Mendes France ce soir, parce que je crois que l'espace Mendes France, on aura l'occasion d'en reparler, a un rôle important à jouer. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et merci beaucoup.